Dans le cadre de la démarche participative Tous paysans embryonnais, une journée de réflexion autour de l'agriculture et de l'alimentation dans le Brionnais s'est déroulée le 23 mai dernier. La thématique principale était du bocage brionnais à la production d'une alimentation de qualité sur le territoire. Trois tables rondes ont été organisées autour de ce sujet, en abordant potentialités et solutions durables, diversification, installation, circuits courts et labels. La deuxième table ronde avait pour thématique les signes de qualité, les labels. Quels enjeux pour les producteurs et les consommateurs? Écoutons tout de suite les deux premiers intervenants de cette table ronde.
Une seconde de présentation d'abord de la part de celle et celui qui prennent part à cette table ronde.
Oui, bonjour à tous. Donc Stéphanie Duché, donc technicienne à l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité, et je suis basée à Mâcon.
Bonjour à tous, donc Stéphanie Limbach, je suis chargée de projet à l'IREPS de Bourgogne-Franche-Comté, donc l'IREPS qui est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, mais je présenterai peut-être par la suite nos principales missions.
Marine Philippe, donc je suis animatrice territoriale et conseillère en élevage biologique pour la structure qui s'appelle Bio-Bourgogne, et je suis aussi animatrice pour le groupement des agriculteurs bio de Saône-et-Loire, et je suis basée à Cluny.
Bonjour à toutes et à tous, Dominique Fayard, je suis chargée de mission au Pays Charolais-Brionnais, donc qui est basée à Paray-le-Monial, où je m'occupe plus particulièrement du projet de candidature à l'UNESCO. J'y reviendrai à la fois pour la présentation de la structure et du projet dans quelques instants.
Bonjour, Henri Baladier, agriculteur retraité à Saint-Léger-les-Parés. Je témoignerai ici en tant que ancien agriculteur engagé dans des signes de qualité, mais je suis par ailleurs aussi membre de l'INAO.
Donc Dominique Fayard, gardez un micro puisque c'est vous qui allez commencer ces interventions. Donc comme vous l'avez dit, en prolongement de cette réflexion de territoire pour une candidature à la reconnaissance patrimoine de l'UNESCO et le contexte aussi de cette démarche, bien sûr.
Donc tout d'abord, je tiens à excuser Monsieur Dominique Lotte, qui est vice-président aux affaires agricoles donc au sein du Pays Charolais-Brionnais et qui a dû partir avant cette table ronde et qui devait être à nos côtés. Donc le Pays Charolais-Brionnais, ce sont en fait 129 communes dans le sud-ouest du département de Saône-et-Loire, 129 communes elles-mêmes rassemblées en 5 communautés de communes et qui se sont regroupées en fait à partir de 2004 au sein d'un syndicat mixte qui est devenu récemment le pôle d'équilibre territorial et rural, donc pour faire en fait ensemble ce qu'aucune communauté de communes ou commune ne pouvait faire seule. Donc et fédérer les élus, le monde associatif, le monde économique autour de projets communs. L'objectif, c'est aussi de répondre aux besoins de cohérence des financeurs, des partenaires publics que sont l'Union européenne, l'État, le Conseil régional ou encore le Conseil départemental, et donc contractualiser avec eux pour des projets à faire, à développer sur le territoire. Donc toutes ces actions en fait menées par la structure Pays Charolais-Brionnais, l'objectif c'est d'animer et de développer le territoire donc d'un point de vue économique et aussi touristique, mais aussi d'aménagement du territoire. On l'a vu récemment avec la démarche SCOT de schéma de cohérence territoriale. C'est aussi un axe sur la valorisation patrimoniale à travers l'obtention d'un label Ville et Pays d'Art et d'Histoire donc par le pays en 2007. Une action culturelle aussi, en lien avec les offices de tourisme du territoire. Aussi l'animation d'un projet local de santé, un contrat local de santé en partenariat avec l'ARS et beaucoup d'autres projets. Et donc la candidature à l'UNESCO qui, elle, a été lancée en 2011. Donc je vais y revenir dans un instant. Je vais vous redonner en fait quelques éléments du contexte en fait dans lequel a émergé ce projet d'inscrire le territoire du Charolais-Brionnais à l'UNESCO. Les élus, le territoire, ont fait le constat que le Charolais-Brionnais avait souffert d'une hémorragie démographique et donc aussi d'une perte d'emploi depuis les années 1970 jusqu'aux années 2000, et que malgré la présence d'un patrimoine paysager remarquable, d'un patrimoine environnemental, d'un bâti remarquable, la proximité aussi de l'agglomération lyonnaise, eh bien le territoire du Charolais-Brionnais souffrait encore d'un déficit de notoriété et d'attractivité. Donc toutes les démarches qui sont menées par le pays vont dans ce sens de développer la notoriété, l'attractivité de notre territoire. Un constat aussi sur la production agricole. On a en Charolais-Brionnais une quasi-monoproduction agricole consacrée à l'élevage des bovins charolais, et les différentes filières sont fragilisées par les crises répétitives qui ont eu lieu ces dernières années, et toutes les interrogations qui tournent autour de l'élevage, de son avenir, etc. L'agriculture a un rôle fondamental dans ce territoire du Charolais-Brionnais, à la fois dans les filières économiques, mais aussi, on le disait, certains intervenants en ont parlé, en termes de maintien, d'entretien des paysages. Et donc le maintien de ce paysage de bocage, d'un système d'élevage extensif à l'herbe, qui est respectueux de l'environnement et du bien-être animal, qui est aussi à l'origine d'une viande de qualité qui a été reconnue par une appellation d'origine protégé. C'est un vrai défi aujourd'hui, tant pour les éleveurs du territoire que pour la collectivité. Et donc, en visant à accroître la notoriété du territoire et de sa production agricole, le pays espère contribuer au développement de ses activités. Alors, c'est l'un des objectifs de la candidature. Alors, donc, je vais vous faire d'abord un petit rappel, sur les objectifs et les enjeux d'une candidature à l'UNESCO. Voilà, donc c'est cette diapositive-là. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'une candidature à l'UNESCO, avant tout, c'est une démarche patrimoniale, qui consiste à préserver un bien. Donc, dans le cas présent, dans le cas du Charolais-Brionnais, c'est préserver ce que l'on appelle un paysage culturel évolutif vivant. C'est-à-dire un paysage, qui conserve des traces de ses activités passées, mais où le développement économique se poursuit, où la population habite, travaille et met en œuvre des actions en vue de préserver son patrimoine et son paysage. Donc la démarche porte sur le paysage culturel de l'élevage bovin, c'est un peu le titre de la démarche, où on peut dire aussi le berceau de la race bovine charolaise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, ce ne sera pas la race qui sera inscrite. L'UNESCO n'inscrit pas de race. Donc non, ce n'est pas l'inscription de la charolaise à l'UNESCO. Ce n'est pas non plus l'inscription du bocage pour lui-même, dans le sens où on prétendrait avoir le plus beau bocage d'Europe ou même du monde. Ce n'est pas le cas, mais c'est pas ça, même si c'est bien sur le bocage que repose la démarche. Mais en fait, c'est plus complexe. C'est un paysage qui est le produit de l'interaction donc de l'homme, de l'animal, du bovin et de la nature, et qui, dans la durée, depuis plusieurs siècles, a été capable de se maintenir sans qu'il y ait eu rupture du système. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'élevage de la charolaise s'est transformé beaucoup depuis ses débuts, ses prémices au XVIIe et XVIIIe siècle, mais que ces évolutions, à la différence de beaucoup d'autres régions, d'autres grandes régions d'élevage, n'ont pas induit de changements profonds dans les traits essentiels du paysage. On a toujours un bocage des haies, des arbres, des mares, etc. Les densités peuvent changer, les techniques d'entretien peuvent changer, mais on est bien dans un paysage culturel évolutif vivant. Donc la démarche ne consiste pas à figer ce territoire, mais bien à accompagner son évolution. Alors ensuite, sur le plan général, c'est la diapositive suivante, voilà. Donc la candidature porte à la fois des enjeux patrimoniaux, en termes de sauvegarde du patrimoine architectural et du paysage, mais aussi des enjeux économiques, et notamment le maintien sur le territoire de l'élevage et de toutes les autres activités qu'il peut y avoir autour ou qu'on peut y développer à l'avenir. Donc, je vous ai listé rapidement les principaux enjeux patrimoniaux. Hein, donc, c'est préserver le paysage de bocage, mais j'insiste, sans le figer. Hein, préserver un patrimoine bâti remarquable. Hein, aussi, on a la chance en Charolais-Brionnais d'avoir une densité patrimoine bâti remarquable, que ce soit des églises, des châteaux, mais aussi tout ce qu'on appelle le bâti vernaculaire, à savoir les fermes d'éleveurs, d'embouchures, de polyculteurs, etc., qui maillent le territoire. Et c'est aussi perpétuer un système durable d'utilisation du paysage en harmonie avec la nature, et aussi renforcer le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, hein, que j'ai évoqué en introduction, qui est un outil de sensibilisation au patrimoine auprès hein, de la population locale, mais aussi des visiteurs qui viennent sur le territoire. Alors, quant aux enjeux économiques, je vous les ai aussi listés, hein, la démarche contribue à la diversification économique du territoire, notamment touristique et agro-touristique. Elle contribue aussi à valoriser les productions agricoles locales, en particulier l'élevage charolais, hein, et son impact bénéfique sur l'entretien et la préservation du bocage. Elle sert aussi hein, à véhiculer une image attractive du territoire à l'extérieur, sur le plan national et même international. C'est aussi une action qui permet de sensibiliser hein, les habitants du territoire au caractère exceptionnel hein, du paysage dans lequel ils évoluent quotidiennement. Et en fait, tous n'ont pas conscience hein, de ce caractère remarquable du paysage qui les entoure. Donc c'est tout un travail de sensibilisation à ce niveau. Et c'est aussi fédérer la population autour d'un projet ambitieux. Hein. Voilà, donc une candidature à l'UNESCO, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un formidable levier hein, de développement qui, au-delà de l'importante notoriété qu'elle confère au territoire concerné, contribue à la diversification économique du territoire. Hein. Et donc, dans le cas présent, ça participe à valoriser hein, toutes les productions agricoles locales. Alors, un troisième point, en matière de qualification des produits, c'est bon. Que peut apporter cette candidature? Donc, ce que je vous disais, une candidature à l'UNESCO, c'est un label patrimonial, mais bon, qui contribue à la notoriété du territoire candidat, puis labellisé. Donc, ça participe directement à la promotion des produits locaux, en particulier des produits sous signe de qualité. Ça contribue à dynamiser les filières locales, hein, dans le sens où ce prestigieux label international est un formidable moteur de publicité, entre guillemets. Donc, une fois labellisé, hein, ça sera la reconnaissance d'un élevage respectueux de l'environnement du bien-être animal, et donc une valeur ajoutée hein, qui sera apportée à ce système et à ses produits. Donc, il faudra donc qu'à ce moment-là, les acteurs locaux sachent s'en saisir hein, pour vendre leurs produits en utilisant cette image de marque. Ce sera aussi, hein, et ça l'expérience des sites qui ont déjà été inscrits sur la liste du patrimoine mondial le montre, une hausse de la fréquentation touristique, donc des clients potentiels, etc. La candidature UNESCO, c'est aussi la co-construction et la rédaction avec les habitants, les agriculteurs, les élus du territoire, d'un plan de gestion du territoire inscrit, hein, du bien qui sera inscrit. Donc l'élaboration de ce plan de gestion qui va donc se décliner dans les années qui viennent, hein, ce sera l'occasion de valoriser les cahiers des charges des signes de qualité, d'étendre leurs pratiques aux producteurs et d'avoir une réflexion globale cohérente à l'échelle du territoire. Et donc je dirais que pour conclure, la reconnaissance hein, du berceau de la race charolaise au patrimoine mondial de l'UNESCO serait un moyen de préserver un système durable qui a fait ses preuves et qui répond aux préoccupations actuelles hein, de la société, aux attentes des consommateurs, notamment en matière alimentaire et environnementale, hein, de voir des animaux qui mangent de l'herbe dans des pâtures et qui ne sont pas concentrés dans des ateliers ou autres. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci. Je me permets une question complémentaire. Je suis sûr que d'autres portent cette question. Cette démarche, vous avez dit qu'elle a démarré en 2011, 6 ans déjà. Et où on en est? Est-ce que les chances d'obtenir reconnaissance progresse.
Voilà, alors on a fait du chemin, c'est long, hein, une démarche UNESCO, il faut savoir que c'est, on va dire en moyenne une dizaine d'années de travaux, hein, c'est comme l'obtention d'une AOP ou d'un autre signe. Donc on a progressé cette année puisqu'on a eu une visite d'experts en février suite au dépôt d'un dossier en septembre dernier. Visite d'experts qui s'est bien passée. Les experts ont été unanimes pour dire qu'on devait poursuivre cette démarche avec donc des choses à compléter, à retravailler dans le dossier pour une nouvelle examination à l'automne. Voilà. Et donc là on en est à l'état d'être inscrit sur la liste de la France. J'ai prévu d'y revenir cet après-midi plus pédagogiquement dans mon intervention, mais je vous le dis déjà. Donc on est à la démarche de se faire inscrire sur la liste de la France. C'est l'étape préalable pour ensuite être inscrit devant l'UNESCO. Voilà, donc c'est un projet de longue haleine.
Très bien. Alors nous passons maintenant du côté de l'Institut national des appellations et de l'origine, INAO, c'est plus ça maintenant, c'est
Institut national de l'origine et de la qualité. Voilà. Mais on a gardé l'acronyme INAO qui était tant connu des professionnels plus que par le consommateur.
Merci. Donc après ce type de signe de qualité qu'est le label UNESCO, on va voir ce qu'est ce type de signe de qualité qu'est une reconnaissance d'appellation.
Voilà. Donc du coup très rapidement je vous ai parlé donc de l'INAO. L'INAO, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un établissement public administratif qui met en œuvre la politique de la qualité du ministère de l'Agriculture. Donc on travaille directement sous l'égide et pour le ministère de l'Agriculture. L'INAO a 81 ans très exactement. Il est né avec le principe et la notion d'appellation d'origine qui s'est développée en France. Et en gros, c'est une grosse maison au fonctionnement très original et qui a gardé d'ailleurs ce fonctionnement depuis 81 années. Donc sa particularité essentielle, c'est qu'elle est le siège en fait d'un pouvoir partagé entre les professionnels, opérateurs des filières de qualité et des signes que je vais présenter par la suite, et des représentants de toutes les autorités compétentes de l'État. Donc, en fait, toutes les décisions qui sont prises au sein de l'Institut, telles que la reconnaissance des signes que je vais vous présenter, sont prises pour 50% par les opérateurs des filières de qualité et pour 50% restant par les autorités compétentes de l'État. D'accord? En gros, hein, voilà. Monsieur Balladier le disait très justement, il fait partie donc des représentants de producteurs qui siègent au sein de l'Institut. Et donc, par rapport à ce fonctionnement original, de fait, on a un directeur qui est nommé directement par le ministre et un président qui est actuellement monsieur Jean-Louis Piton, président, donc issu du monde de la production. Pour continuer donc rapidement, le budget annuel de l'INAO, c'est 23 millions d'euros, issus principalement donc pour 70% de dotations budgétaires de l'État et les 30% restants étant les subventions, les droits payés par les opérateurs des SICO. Voilà. SICO, ça veut dire quoi? Donc SICO, c'est les signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine. Donc, on sait très bien que le consommateur, tout comme les éleveurs d'ailleurs, sont totalement perdus dans le monde des logos qui s'est développé sur l'ensemble des produits alimentaires. Il faut savoir qu'en fait, il n'existe en France que 5 signes officiels garantis par l'État. D'accord? Que 5. Et c'est déjà pas mal. Et chacun défend une qualité, une ou plusieurs qualités, parce que quand on emploie le terme qualité, c'est pas que la qualité telle que le consommateur la voit, c'est ces signes défendent certaines qualités dont on va présenter les différences. Alors, le premier signe de la qualité qui est géré par l'Institut, c'est l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est née en France en 1980. Et elle n'a été reconnue au stade européen qu'en 91. En fait, l'agriculture biologique, un signe porteur de ce logo AB, et donc de la feuille au niveau européen, atteste que la qualité de ce produit est issue de son mode de production ou de transformation qui est respectueux tant de l'environnement que du bien-être animal. Donc, la qualité qui est apportée par un produit sous agriculture biologique est essentiellement, qui est caché derrière ce logo, c'est essentiellement et exclusivement le fait d'être un produit qualifié de sain, c'est-à-dire respectueux donc de l'environnement et du bien-être animal, avec donc vous connaissez les principales lignes, donc l'absence d'OGM, la minimisation des intrants chimiques et de synthèse, voire l'interdiction pour certaines productions, et derrière des garanties de bien-être animal, d'accord ? Donc je voudrais mettre fin à toutes les polémiques qu'on peut entendre parfois mises en place par la presse qui disent « oui, ben on a fait déguster les produits bio aux consommateurs et ils ont dit qu'ils étaient moins bons et pas bons par rapport à d'autres produits ». Oui. Ok, peut-être. C'est pas la qualité qu'on leur reconnaît. Bien sûr que le produit agriculture biologique doit être bon pour être consommé. On est d'accord. Le consommateur va pas se tourner vers des produits qui ne seraient pas bons. Pour autant, ce que garantit un produit sous agriculture biologique, c'est pas un enjeu gustatif, c'est un enjeu sain, lié à l'environnement et au bien-être animal. C'est ce qu'il y aura dans l'assiette du consommateur. D'accord? Voilà. J'essaye d'aller vite, hein. Le label rouge, donc autre signe de la qualité géré à l'institut. Donc le label rouge, lui, atteste qu'un produit label rouge a une qualité supérieure. Quand on parle de supérieur, ça sous-entend et ça implique qu'on se compare à quelque chose. On est bien d'accord. Donc supérieur à quoi ? C'est supérieur à un produit courant similaire. Par exemple, mon jambon label rouge, que je vais trouver dans l'étal de la grande surface, a été comparé à un jambon standard qui va être dans le même linéaire. D'ailleurs, on cherche à orienter que le consommateur puisse comparer les deux productions et facilement quand il les trouve dans le rayon. Donc, il atteste cela. Mais, quel est le critère de comparaison ? Le critère de comparaison d'un label rouge est exclusivement organoleptique, c'est-à-dire que tout produit qui porte ce label rouge vous garantit qu'il a été testé par un jury de consommateurs, un gros jury, hein, et derrière, ce jury de consommateurs a attesté que sur différents critères organoleptiques, alors le produit a été jugé de qualité supérieure par rapport aux produits courants similaires définis. D'accord ? Pour autant, on est bien d'accord que si ce produit est supérieur en qualité gustative, cela implique qu'il y a des conditions de production derrière qui sont fixées dans un cahier des charges qui sont de fait supérieures également à la manière de produire le produit courant similaire sur lequel on se compare. Voilà. Donc en fait, quand un éleveur s'engage dans la filière agriculture biologique, il a un cahier des charges à respecter, des conditions de production, ou bien pour un transformateur, des conditions de transformation qui sont fixées. Donc il y a un cadre et des bases minimales fixées par l'État et les opérateurs qui définit un cadre minimal et des conditions de production minimales. Et derrière, chaque label rouge ajoute ses propres spécificités, ses propres conditions de production plus strictes. Voilà. Et donc, bien sûr, cela fait l'objet de contrôle. Donc, je vous ai mis des exemples de produits label rouge parce qu'on parle de produits alimentaires, mais le label rouge est aussi valable pour d'autres productions. Vous vous entendez peut-être parler beaucoup ces temps-ci des fleurs. Il y a beaucoup des géraniums, des roses, etc. qui commencent à obtenir les labels rouges. Il y a par exemple le gazon. Donc, on est bien d'accord qu'en test organoleptique, on ne mange pas le gazon. Mais il faut savoir que organoleptique, ça fait appel aux cinq sens et il n'y a pas que le goût. Et donc, il y a plusieurs critères qui sont fixés pour ce gazon. Et notamment, c'est le gazon qui est utilisé par les plus grands stades hein, pour les matchs. Voilà. Mais il y a aussi de la mousse au chocolat, etc. en produits transformés. On a un troisième signe qui est assez méconnu au niveau français. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà on a une culture gastronomique et du goût, qui, comme l'a expliqué tout à l'heure dans la première table ronde, assez importante au niveau français. Et donc, la spécialité traditionnelle garantie, STG, n'est actuellement pas énormément développée en France. En fait, la STG, c'est un signe européen. que la France peut mettre en place. Ouh là là, d'accord. Et du coup, donc, elle atteste que le produit porteur de ce logo STG apporte un nom traditionnel et qui garantit que soit la matière première, soit sa manière d'être fabriquée est traditionnelle, répond à des règles traditionnelles. Et quand on parle de tradition au niveau européen, on parle d'une génération, donc de 30 ans. Il faut que la notoriété soit acquise depuis 30 ans pour porter ce nom. Donc, je vous ai mis un exemple, la seule STG actuellement reconnue au niveau français est la moule de Bouchot. Donc, de Bouchot, en fait, ce n'est pas un lieu géographique, hein, attention, il ne faut pas que ce soit un lieu géographique. La moule de Bouchot, c'est la particularité de son élevage, et les Bouchots, ce sont les morceaux de bois, les piquets de bois qui sont mis dans la mer. Donc, c'est cette particularité, cette tradition d'élevage, et donc, en fait, ce signe est européen. C'est-à-dire que les Français ont déposé cette ESTG, pour autant, dans n'importe quel autre pays européen, si un éleveur de moules voudrait faire de la STG, il le peut dans la mesure où il respecte ce cahier des charges qui est partagé au sein de l'Europe. Voilà. On parle après de l'identification d'un produit, on parlait d'ancrage territorial, il y a des produits qui portent des noms de régions, de territoires, vous le savez. Et au sein de ces produits porteurs de noms géographiques, on a deux signes. Le premier est l'IGP, l'indication géographique protégée. L'IGP atteste que le produit porteur du nom d'un territoire, sa manière d'être produite, d'être transformée, ou bien sa notoriété, simplement, acquise au fil du temps, est liée à cette aire géographique. Elle a une origine géographique, d'accord ? Pour autant, l'IGP, j'aime bien dire que c'est une succession de « ou ». C'est-à-dire que je dis bien qu'elle a une qualité, ou un mode de production ou de transformation, ou une notoriété qui est liée à cette origine géographique et au nom qu'elle porte. D'accord ? C'est important pour faire le parallèle avec l'AOP. Et donc, je vous ai mis des exemples de produits IGP. Donc, vous en connaissez sans doute même tous, je pense, certains. Mais par exemple, si je prends l'IGP Jambon de Bayonne, donc qui est très connu, c'est de notoriété dûment acquise. Cette notoriété, elle a été acquise pourquoi ? Par rapport à un savoir-faire de transformation et de séchage du jambon, d'accord ? Par contre, sa matière première, le cochon, n'est pas obligatoirement produit sur l'aire géographique du jambon de Bayonne, d'accord ? On est d'accord. Donc voilà, c'est pour vous expliquer, il y a un lien avec le territoire et le nom du territoire qu'il porte, mais voilà, on va dire que c'est un lien partiel. Je vous ai mis aussi un exemple d'IGP étrangère, parce que quand bien même on peut passer au niveau de l'Europe, on a en Colombie une IGP qui a été enregistrée au niveau européen pour la protéger, hein, c'est que pour la protéger dans le marché européen, donc c'est le café de Colombie par exemple. Et enfin, pour terminer, l'AOP, l'appellation d'origine protégée. Alors déjà, juste un petit aparté, donc vous avez sans doute entendu parler d'AOC. AOC-AOP, c'est la même chose, hein. Il n'y a pas de différence, sauf que l'AOC, c'est la phase transitoire de reconnaissance, c'est-à-dire que la France reconnaît qu'un produit peut mériter l'obtention d'une appellation d'origine, mais cette appellation d'origine doit obligatoirement être enregistrée au niveau européen, puisque nous faisons partie de l'Europe. Donc, on atteste pendant un laps de temps jusqu'à ce que la Commission européenne enregistre cette dénomination. Et donc, dans ces cas-là, on bascule sur AOP et l'AOC disparaît. Mais ce n'est qu'une phase de reconnaissance transitoire par la France jusqu'à ce qu'on obtienne l'AOP. Et donc, un produit porteur d'une AOP, les qualités qui sont attestées et garanties par cette AOP, c'est la fameuse succession de « et » cette fois-ci, c'est pas une succession de « ou », c'est que toutes les qualités de ce produit, sa notoriété, toutes les conditions de production sont exclusivement réalisées dans l'air. Donc, si je prends le parallèle avec un jambon IGP, alors ça sous-entendrait que les cochons seraient nés, élevés, engraissés, abattus sur le territoire délimité. Et bien souvent, on est sur des zones beaucoup plus petites que les IGP. Et donc, quand on parle d'un lien, l'AOP correspond tout à fait à la définition, en fait, donnée la demande de patrimoine de l'UNESCO, parce qu'en fait, l'AOP, c'est un système, elle reconnaît un système d'interaction entre un produit, un animal qui vit sur un territoire, qui a un paysage particulier, qui est lié à des sols particuliers, qui est lié à un climat particulier, qui est lié du coup à la végétation particulière qui va se développer, qui est lié au savoir-faire des hommes, qui vont développer des techniques et adapter, choisir des espèces pour se développer, des espèces végétales comme animales, qui vont se développer ici et qui va structurer un paysage particulier, qui bien sûr est évolutif, les appellations d'origine sont évolutives dans la mesure où elles préservent leurs fondamentaux et leurs spécificités organoleptiques. Voilà. Une AOP et une IGP, on doit absolument, quand on dépose un dossier à la Commission européenne, prouver qu'elle a des spécificités organoleptiques particulières qui sont liées à ce territoire. Et donc, ça sous-entend que le consommateur, quand il va goûter ce produit, on parlait de tout à l'heure, Monsieur Brunet parlait de la spécificité de certains de nos produits, et si le consommateur n'est pas effectivement pas prévenu, parfois ça peut quand même surprendre au niveau du goût. Il est clair qu'une AOP n'est pas faite pour, alors c'est pas qu'elle n'est pas faite pour plaire au consommateur, mais entre guillemets, elle plaît ou elle ne plaît pas. Elle ne changera pas, d'accord ? On va dire que c'est un peu le principe différent du label rouge qui, lui, est soumis au jugement du consommateur. Et donc, derrière, on sait que si le consommateur change de goût, alors le label rouge devra, de fait, s'adapter puisque c'est lui qui juge de la qualité supérieure gustative. Voilà. Donc, il y a deux modes de qualité organoleptique différents et qui leur sont propres et qui sont tout à fait défendables et qui sont pourtant et justement, très justement, des signes de qualité.
Est-ce que vous pouvez quand même nous dire, après ce descriptif qui sans doute nous a éclairé, parce que toutes ces distinctions, on ne les maîtrise pas vraiment, c'était très clair. Mais est-ce que sur la question apport ou plus-value de ces rattachements, ces signes, pour le producteur et pour le consommateur, est-ce que en deux mots vous pouvez quand même dire quelque chose sans trop surdépasser votre
oui,
temps?
Oui, je suis bien consciente. C'est très délicat à chaque fois d'expliquer toutes les particularités de ces différents signes et les modes de valorisation, mais clairement, donc, si on peut revenir sur la diapositive complète, toute la liste des signes, donc, quand, en fait, ce sont tous ces signes. Comment dire, ne sont pas en concurrence en fait, et ils se complètent tous et ils défendent tous. Un éleveur fait le choix d'aller dans un ou un autre des signes, c'est par rapport à ses propres aspirations et défend ses qualités, des qualités différentes. Et l'agriculture biologique, par exemple, peut s'additionner sur chaque signe puisque elle ajoute en fait des conditions de production et des qualités supérieures en fait à déjà des fondamentaux de qualité. En termes d'agriculture biologique, donc valorisation à l'échelle d'une exploitation. Voilà. À l'échelle d'une exploitation, donc c'est très délicat au niveau de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est une démarche totalement individuelle, d'accord ? Pour autant, imaginons qu'un territoire, un petit territoire, qui déciderait de mettre en place et d'encourager et de faire en sorte que ce territoire au complet, avec toutes les productions qui y sont faites deviennent, enfin, soient engagées dans l'agriculture biologique, ce qui peut être envisageable, hein. Alors dans ces cas-là, on est bien d'accord que l'ensemble des agriculteurs qui sont sur ce territoire vont s'associer. Ils répondent aux mêmes enjeux et donc derrière, ils vont valoriser cette production. La valorisation principale, elle passe par le logo. Et le consommateur sait à peu près ce qu'il y a derrière, sauf si ça s'attend à ce que ce soit la qualité supérieure gustative. Mais derrière, donc, c'est par rapport à l'acte d'achat. Ça encourage l'acte d'achat et par rapport notamment aux volontés, aux souhaits actuels de consommation de nos consommateurs. C'est plutôt par là. Je ne peux pas dire qu'à l'échelle d'une exploitation, un éleveur qui est engagé en agriculture biologique, je ne peux pas vous dire combien il va valoriser sa production.
Et en règle générale,
ça va attirer.
Le rattachement à tous ces signes de qualité, est-ce que ça veut dire qu'on, que à l'unité, au kilo, au litre, à l'hectolitre, on vend plus cher?
Ah bien sûr,
oui,
l'objectif de tous ces signes de qualité, c'est une plus-value. C'est une plus-value pour l'éleveur, d'accord?
Oui, alors ça peut être une plus-value en termes de reconnaissance du produit,
voilà.
D'attractivité, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi le prix.
Pour vendre plus ou pour vendre plus cher.
D'accord.
Voilà.
Et sur le cas précis de la viande charolaise, est-ce qu'on a un comparatif?
Alors,
entre le prix moyen de vente avant l'appellation et après l'appellation.
Est-ce que, ben, je pense que Monsieur Balladier pourra compléter oui. Par
vous
rapport
êtes
à.
Vous étiez éleveur vous-même.
Voilà,
vous,
au label rouge.
On reviendra avec vous.
Voilà, ce que je peux dire, c'est qu'à l'échelle d'une exploitation et par rapport notamment à l'appellation d'origine bœuf de Charolles, il y a trois chiffres importants. Un éleveur qui s'engage dans une appellation d'origine, dans l'appellation d'origine bœuf de Charolles, d'accord, qui doit respecter un cahier des charges très strict. Qui du coup engage l'exploitation, l'ensemble des pratiques dans un système très spécifique. Et donc, l'une des particularités du monde bovin allaitant fait que l'éleveur engage ses animaux, ce qui n'est pas le cas dans d'autres filières plutôt intégrées. Pour vous donner le comparatif, un éleveur, on dit qu'un ici, sur le territoire du Charolais-Brionnais, on dit qu'un éleveur qui est engagé, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la future, peut-être, IGP Charolais de Bourgogne, donc d'enregistrement à la Commission européenne. La Commission européenne est en train de se prononcer sur ce. Alors, l'éleveur, au sein de son exploitation, il va sortir un animal futur IGP par an. Au niveau d'une exploitation engagée en label rouge, alors l'éleveur va sortir 5 à 6 animaux en label rouge par an. À l'échelle d'une exploitation engagée en AOP, alors on en est actuellement à une moyenne de 10 animaux par an. Donc avec l'échelle de valeur qui est associée à cette vente, hein. Voilà. Donc c'est vraiment une volonté et un engagement de l'éleveur d'engager ses bêtes dans cette appellation et qu'elles sortent dans les attendus de l'AOP. Deuxième chiffre important, c'est que du coup, au niveau de la filière, ils se sont... Alors attention, je ne parle pas d'entente de prix. Je le précise bien à la caméra, qui est totalement illégale. Il y a une grille indiciaire. On va dire un prix minimum conseillé qui est défini par les éleveurs eux-mêmes, qui est remis à jour tous les 15 jours maximum et qui est totalement stable et totalement déconnecté du marché de la viande bovine actuelle qui, on connaît la volatilité des prix. Et donc, en fait, ça sous-entend qu'un éleveur qui s'engage dans l'appellation d'origine est assuré d'avoir un prix minimum stable de reprise et d'achat de ces bêtes, ce qui est un peu plus délicat dans le monde bovin. Troisième chiffre très important,
rapidement.
C'est que la plus-value commerciale et économique apportée est estimée en moyenne, toutes catégories confondues, hein, je parle génisse, vache et bœuf, est approximativement de 50 à 60 centimes de plus qu'un par prix carcasse. Hein. Achat prix carcasse gagné par l'éleveur par rapport à une production, on va dire, autre standard.
Oh,
voilà. Donc, je veux dire, l'objectif de plus-value économique est là, mais j'avais tout un développement par la suite sur l'apport de tous ces signes sur un territoire, en fait, parce que, outre la plus-value économique, il y a quand même un énorme lien social. On parle de démarche collective pour la plupart de ces signes. L'éleveur n'est pas seul. Ensuite, il y a ces SICO sont d'énormes outils de développement rural, tant au niveau de la protection de l'environnement, parce que dans les cahiers des charges, il y a énormément de choses qui sont mises pour encourager, donc forcément, le pâturage. Donc, qui dit pâturage dit l'entretien des prairies permanentes, la diversité floristique, l'alimentation, etc., etc.
Première partie, donc, de cette deuxième table ronde sur les signes de qualité, quels enjeux pour les producteurs et les consommateurs, avec la participation de Dominique Fayard, chargé de mission au pays charolais-brionnais, et plus particulièrement de la candidature UNESCO, et Stéphanie Duché de l'Institut national de l'origine et de la qualité.